Le grand témoin. Bonjour et bon dimanche chez vous. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour vous présenter celui qui sera notre grand témoin dans ce studio avec moi, Maître Michel Okongo-Lomena. Il est avocat et président national du parti politique Unité des Valeurs. Unité des Valeurs, pourquoi? Il va nous répondre dans cette émission. Maître Michel, c'est un plaisir de vous recevoir dans ce studio des Radio Capi.
Le plaisir est partagé, madame. Bonjour.
Bonjour. Alors, avec vous, dans cette entretien, on va vous présenter auprès des auditeurs des Radio Capi qui nous suivent en ce moment partout en RDC. Ils sont très nombreux et même à l'étranger grâce à notre site internet www.radiocapi.net. On va vous présenter, comme je l'ai dit, on va parler de vous, de votre parti politique, Unité des Valeurs. Pourquoi cette dénomination? C'est un parti politique qui est dans l'opposition. Vous êtes candidat président de la République, on va en parler dans cette émission. Mais avant, on va faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Vous êtes né où et quand?
Merci pour la question. Je vais commencer d'abord par saluer les Congolais qui nous suivent. Je suis Maître Michel Okongo-Lomena, comme vous l'avez dit. Je suis né à Kisangani. Certains 4 octobre. Normal, c'est 1958, c'est mai. Il y a eu un lapsus. On m'a mis 57. Bon, je porte, je crois, une année de plus. Et je suis...
Et c'est à Kisangani où vous avez grandi, vous avez passé le plus de votre temps, votre enfance?
Pas forcément, j'ai passé mon enfance à Kisangani. Et puis j'étais à cheval entre Kinshasa et Kisangani. Et la suite, je me suis retrouvé à l'extérieur. Je crois qu'on en parlera. J'ai fait presque l'Afrique. Dans le cadre de mes activités connexes, politiques également. Je me suis retrouvé au Congo-Brazzaville et en République centrafricaine.
Alors, on va y arriver.
On va y arriver.
On va y arriver. Voilà. Maître Michel, au Congo, vous êtes né à Kisangani. Vous avez fait vos études où, primaire, secondaire?
Alors, à Kisangani, j'ai étudié dans l'Institut Sainte-Marie-Isma, l'Institut catholique, l'école primaire, secondaire également, institut qui s'appelait Etoka, et toujours à Kisangani, et puis je me suis retrouvé à Kinshasa, j'étais à Movenda, et puis à Salongo, j'ai décroché mon diplôme d'état, j'étais ensuite à Iniki, on a connu quelques années blanches, et de là je me suis retrouvé au Congo-Brazzaville, où j'ai été inscrit à Marien-Gouabi.
Vous avez fait le droit?
J'ai fait le droit à Marien-Gouabi, donc j'ai obtenu ma licence. Ensuite, je suis parti en Europe.
Vous décrochez votre diplôme de licence en droit?
Exact.
Vous décidez d'aller en Europe. Pourquoi les parents trop pays, vous avez décidé d'aller en Europe?
Bonne question, madame. Vous savez, lorsque j'étais tenté de rentrer ici, mais laissez-moi vous dire que j'avais toujours un pied ici, pendant que j'étais à Brazzaville, j'avais un pied ici, parce que aussi j'avais une activité. J'étais bien branché dans les circuits professionnels, donc je chômais pas là-bas, j'avais une activité lucrative, et c'était dans les médias, et ça m'a permis de rester là-bas.
Mais dans
j'avais
les médias?
Oui, exact.
C'est-à-dire?
Eh bien, j'ai travaillé...
Vous avez fait le journalisme?
Oui, c'est le terrain. Mm-hmm. C'est le terrain, et une fois arrivé en Suisse, je me suis inscrit dans une université pour parfaire mes connaissances, et donc voilà.
Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Vous étiez reporter à Brazzaville, vous avez travaillé dans un...
J'ai travaillé avec les institutions, je préfère ne pas aller trop loin. J'ai travaillé également avec les circuits ATC. Donc j'étais dans ma charge, j'avais tout ce qu'il y avait comme événement sur le port de Pointe-Noire, sur le port de Brazzaville et aussi sur le chemin de fer. C'est moi qui m'en occupais. Et puis, j'avais quand même un pied sur les institutions, une des plus hautes institutions à Brazzaville.
La présidence?
Exact.
Alors, après Brazzaville, vous vous retrouvez en Suisse. C'était pour votre business ou Brazzaville ne vous plaisait plus?
Non, pas forcément. Cela ne me plaisait plus. Mais entre-temps, j'avais un engagement politique aussi, je l'avoue. Pendant que j'étais à Brazzaville, j'ai milité pour les comptes d'un parti qui s'appelait IDPS. J'avais des responsabilités. Il savait qu'à un moment donné, on avait les pillages ici. Et puis là-bas aussi, la situation n'était pas stable. Je me suis retrouvé en République centrafricaine sur recommandations des autorités là-bas. Donc je préfère ne pas citer tout le nom ici. Et j'ai été recommandé. On m'a recommandé chez Patassé à l'époque, qui m'a réussi. Je suis resté pendant un certain temps. Malheureusement, ou plutôt heureusement, ça dépend. J'étais confronté à certaines situations où j'étais obligé d'intervenir parce qu'il y avait des compatriotes qui étaient déportés des Brazzaville, c'était des réfugiés en fait, qui appartenaient à l'époque à la DSP, qui étaient déportés et pourtant ils avaient le statut de réfugiés. Ils avaient la protection des autorités centrafricaines. Malheureusement, il s'avère qu'on les déportait vers Zongo, et la destination, c'est inconnu. Alors, j'étais obligé d'être impliqué, d'être tempéré dans ce dossier. Je les ai défendus. Patassé venait d'arriver au pouvoir, donc le président Patassé, il m'a conseillé.
Vous les avez défendus en tant qu'avocat ou bien parce que c'était vos compatriotes, ça vous dérangeait de les voir être déportés?
Vous savez, je suis légaliste, hein, donc moi, je suis avocat, c'est vrai. Mais j'ai dit, je le fais par vocation. Hein, c'est par vocation. Je vais défendre dans ma conviction. Dans ma conviction, je défends. Partout où je passe, là où il y a l'injustice, en tout cas, je ne la laisse pas passer. Alors, je suis tombé sur ce dossier. Je les ai défendus. Pas forcément en tant qu'avocat, mais en tant que Congolais d'abord. Parce que je trouvais injuste le fait qu'il soit déporté. C'est ainsi que j'avais mis ma propre vie en danger. Et l'autorité numéro 1 du pays avait décidé de me recommander au Soudan. C'est pourquoi je me suis retrouvé au Soudan, accueilli par le président, l'actuel président, que je salue. J'espère qu'il me suit.
Vous êtes marié?
Exact.
Père de combien d'enfants?
5 enfants.
Parlons de votre parcours politique. Vous vous lancez en politique à partir de Brazzaville ou déjà lorsque vous étiez à l'université, vous aviez déjà commencé à fréquenter certains partis politiques?
Je vais être clair. Vous savez, à l'époque, à notre époque, il fut un temps où tout le monde était membre d'un parti, qu'on le veuille ou pas, c'était les MPR. Moi, j'en étais également membre. Et lorsque les choses ont commencé à bouger, au campus, vous savez que les étudiants à l'époque, on était bruyants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On suivait tout de très près et on a compris, on avait suivi un certain inaction qui était posée par les 13 parlementaires. C'est pourquoi j'ai commencé à cette époque-là, j'avais commencé à m'intéresser à la politique. D'abord comme un simple militant et ensuite je me suis engagé à fond, petit à petit, ça a commencé ici. Je me suis retrouvé à Brazzaville dans une cellule. Puis j'ai été élu, et c'est là où j'ai commencé mes vrais débuts en politique. J'étais élu d'abord comme ça de compte d'une cellule, la cellule de Wenze, et par la suite, président d'une cellule, la cellule même de Wenze, qui était le fer de lance du parti. Et bien voilà, j'ai été propulsé petit à petit, j'ai voulu jusqu'à devenir représentant en Suisse. Et ça, c'est notre paire de marches que nous allons développer un peu plus tard. Mm-hmm. Donc voilà comment je me suis retrouvé en politique. Avec l'envie de servir, parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas, il fallait s'engager, parce qu'on estime quand même qu'on n'est pas par hasard congolais, parce que lorsque ça ne va pas, lorsqu'on a quand même un minimum de connaissances, et cela nécessite à ce qu'on s'y prenne. Voilà.
Vous avez été dans l'UDPS pendant plusieurs années, en Suisse, vous étiez même le représentant de l'UDPS.
Comme en Suisse,
venez. Oui, vous venez de le dire. Pourquoi vous avez quitté ce parti politique, puisqu'aujourd'hui vous êtes vous-même président d'un parti politique?
Si vous le permettez, je souhaiterais retracer les parcours. Donc, j'ai quitté Brazzaville. Là aussi, j'ai quitté toutes mes fonctions. Mais j'étais en contact avec la hiérarchie. J'étais en contact à la fois avec les diverses chancelleries, avec les autorités locales du parti. C'était le cas à Bangui lorsque je suis arrivé. Et j'ai signalé ma présence auprès de la hiérarchie à l'époque. Mais c'est Tshisekedi était au courant que j'avais fait ces déplacements. Après, je me suis retrouvé au Soudan. J'ai été recommandé par le président, le défunt Patassé, paix à son âme.
Petite parenthèse, vous entreteniez quelle relation avec le président Patassé?
Oui, vous savez, j'étais recommandé, tout simplement, et j'ai été bien reçu par lui. Vous savez, en politique, c'est une famille, on constitue une famille, un précaré où on se côtoie. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai été recommandé, j'ai été accepté. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la suite de mon histoire. Alors, je me suis retrouvé à à Khartoum au Soudan, et là aussi j'ai été accueilli par les autorités, le président m'a installé, j'étais très bien, et là il s'est passé quelque chose, j'arrive, j'ai été accueilli par les Congolais que j'ai trouvé là-bas. Une masse de Congolais, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, après la rébellion de 1964, il y a un groupe de Congolais qui avait trouvé refuge au Soudan et qui ont fondé un foyer et qui se sont multipliés. Lorsque je suis arrivé, j'ai recensé, ils étaient autour de 31-32 000 personnes. Ils m'ont accueilli. Ils avaient une structure qui s'appelait Fodelico, au sein de laquelle j'ai retrouvé Mzé Laurent Kabila, qui faisait partie de cette structure. Et on m'a donné la charge de diriger cette structure. Ça s'appelait Fodelico, Force de Libération du Congo-Kinshasa.
Vous étiez le commandant suprême de la
J'étais
force.
J'étais le commandant suprême, mais je vous dis qu'on n'a jamais tiré une seule cartouche pendant que j'étais là. Donc c'était une force politico-militaire. Et c'est pourquoi j'ai dirigé. Et...
Pourquoi vous, commandant suprême de cette force, vous trouvez des Congolais là-bas déjà bien organisés, et vous vous débarquez et on vous prend, on vous nomme commandant suprême de la force?
Non, c'était à la fois une façon, parce qu'ils sont partis depuis 1964. Et lorsque je suis arrivé, les seuls discours qui étaient là-bas, on me le disait, que Mobutu, il faut le faire partir de force, par exemple, parce que c'est le seul langage qui semble comprendre. Je les ai dit que derrière vous, beaucoup de choses se sont passées. Nous sommes rentrés dans une ère démocratique. Donc, il y a le multipartisme que Mobutu avait décrété dans les années 90. Et puis, il fallait faire passer ça. Mais il y avait un choix. Il fallait faire partie de ces mouvements pour pouvoir faire passer ces messages. Autrement dit, on vous prenait pour un traître. C'était un dilemme. J'étais devant un choix difficile. Il fallait accepter. C'est ce que j'avais fait. Et petit à petit, je les avais démobilisés. Et vous comprendrez même que lorsque le pouvoir a changé...
Vous les avez démobilisés tous?
Oui, tous en tout cas. Mais je vais vous dire quelque chose. J'arrive. Ma préoccupation, c'était d'organiser des séminaires de formation civique pour parler du Congo, pour parler de l'évolution, la situation politique et démocratique dans notre pays.
Vous êtes resté à tête de cette force pendant combien d'années?
Pendant 2 ans, à peu près.
Pourquoi vous êtes parti?
Vous savez, les choses bougent. Je fais mon temps, parce que je suis arrivé juste après André Kissassé. Moi, je l'ai remplacé. J'ai fait mon temps, le temps nécessaire. Après, je devais partir ailleurs. C'est pourquoi je me suis retrouvé en Suisse.
C'est un peu flou dans ma tête. Non,
pour moi, c'est clair.
Vous êtes commandant suprême de la force de libération pour le Congo. Vous y restez pendant 2 ans. Et puis, un bon matin, vous vous décidez de partir comme ça sans que l'on ne vous ait demandé de démissionner ou quoi que ce soit.
Non, vous savez, lorsqu'on se bat, on se bat pour un idéal. Il y a des paramètres. Lorsqu'on veut aller plus loin, c'était le cas pour moi. J'ai dit que je dois changer de milieu. C'était ça la raison. Et entre-temps, j'avais fait mon travail. J'avais estimé que le travail était fait. J'avais réussi à démobiliser. J'avais réussi à parler démocratie dans un milieu où tout le monde était hostile à la démocratie. Et pour moi, j'avais estimé que c'était suffisant. C'est ce qui a d'ailleurs motivé les retours de certains. C'est vrai, j'étais combattu lorsque j'étais là-bas avec, à l'époque, il y avait un ambassadeur qui s'appelait Mwa Ingapa. Il avait des filiations avec Wanda à l'époque. À ma connaissance, cet ambassadeur est en Australie. Donc, j'ai été combattu à cause de mes idées. Mais j'ai fait mon travail dans les délais. J'avais estimé que ce que je devais faire, je le fais. Alors, il fallait aller ailleurs. Je veux vraiment souligner une chose. Ce sont des Congolais qui étaient avec notre aîné Gizenga. Après l'indépendance, il y a eu des sécessions par-ci, par-là. Nous avons retrouvé Gizenga qui était le premier ministre de Bénin. Avec tout ce qui s'en était suivi, c'était la rébellion. La rébellion. Lorsqu'ils ont été attaqués, ces groupes-là ont fui, ils se sont retrouvés au Soudan. Arrivés au Soudan, ils ont gardé leur statut. Ce sont les gens qui sont partis avec des biens, avec tout ce qu'ils avaient. Ils ont gardé ces statuts. Et je précise que lorsque je suis arrivé, tellement qu'ils s'accrochaient à leur statut, ils m'ont dit, si vous voulez nous parler, vous devez accepter les responsabilités que nous devons vous donner. Il y avait un volet politique, un volet militaire. Lorsque j'avais estimé que mon travail était fait, eh bien, je devais continuer ailleurs. C'est pourquoi je me suis retrouvé en Suisse. Et là, j'ai continué mes activités au sein de l'IDPS.
Vous continuez vos activités au sein de l'IDPS en Suisse, mais lorsque vous vous retrouvez au Soudan, vous n'aviez plus aucun lien avec l'IDPS.
Laissez-moi vous dire que pendant que j'étais au Soudan, j'avais fait un effort pour implanter le parti là-bas. Parce qu'il y avait Fodelico, les gens
qui... pas incompatibilité.
Non, je crois que c'est une situation assez complexe que j'avais expliqué à la hiérarchie. Et c'était passé. Et mon problème, c'était de faire en sorte que tout le monde puisse comprendre que les choses avaient changé au Congo et qu'il y avait un langage démocratique désormais qui était utilisé. Et ça, je l'avais réussi. C'est ce qui a fait que je puisse installer les partis là-bas. Je ne sais pas ce qui est arrivé après moi. Lorsque je suis parti, j'avais laissé une équipe avec quelqu'un qui s'en occupait, qui s'appelait Maundu Boula. Et après, je n'en sais rien.
En Suisse, représentant officiel de l'UDPS, représentant personnel d'Étienne Tshisekedi auprès des autorités suisses, vous avez pris part à plusieurs rencontres internationales.
Exact.
Au nom de l'UDPS.
Exact.
C'est à quel moment que vous décidez de claquer la porte à ce parti politique, hein?
Puisque nous parlons de l'histoire, moi je crois que ce serait mieux quand même que les Congolais sachent ce que font les uns les autres. Ce qui tout à l'heure, hors micro, vous avez semblé penser que le temps chauffé depuis que je suis ici était court. Mais je vous ai dit que j'avais mon cœur qui battait ici et mon physique était en Europe. Ça veut dire que j'étais très bien ancré dans notre société. Je suivais tout ce qui se passait, j'y participais. Ce que j'aimerais dire, lorsque je parle des réunions, nous avons eu affaire des nuits blanches. Que ce soit à Kou, il y a une ville, une petite ville qui s'appelle Kou, qui est perchée à 3000 mètres dans les environs de Montré. C'est là où se tenaient la plupart des réunions. Je précise que dans cet ancien palais magnifique qu'on nous concédait par le gouvernement, on se retrouvait tous. Tout ce qui se chamaillait, tout ce qui se tirait les pattes, se retrouvait là-bas. C'était une espèce de l'arche de Noé.
Parce qu'on parlait de tout, c'est-à-dire opposition et majorité.
Tout le monde, même les groupes rebelles, les dirigeants des groupes rebelles se retrouvaient là-bas. Moi, certaines personnes, je les ai vues là-bas pour la première fois, je les ai côtoyées. Il y a eu des réunions qui se tenaient aux Nations Unies. C'était aussi, ce que vous savez, les Nations Unies ont beaucoup donné. On se retrouvait, on a beaucoup fait. J'étais tout le temps entre des avions. Vous me posez la question... lorsque vous me posez cette question, ça...
Pourquoi avoir claqué la porte alors que vous avez beaucoup donné pour ce parti?
Mais j'ai pris... C'est une façon de parler, je n'ai pas claqué la porte. J'avais négocié mon départ.
Pourquoi?
Avec le président.
Pourquoi? Parce que vous avez estimé que vous pouviez maintenant voler de vos propres ailes?
Non, pas seulement ça. Vous savez, on adhère dans un parti politique par conviction politique. C'est-à-dire, on vient pour apporter quelque chose. N'est-ce pas? C'est ce qui m'a poussé à adhérer dans l'IDPS. C'était par conviction politique. J'ai cheminé avec ce parti. Et puis, à un moment donné, je ne me retrouvais plus. J'avais discuté avec le président. Je l'ai suivi en Afrique du Sud. Et puis, il était à la veille de son départ à Bruxelles. J'étais, je crois, en 2008-2009.
Vous ne vous retrouviez plus, c'est-à-dire quoi? Idéologiquement ou... Financièrement?
Pas financièrement, parce que j'ai beaucoup donné. Je suis, comme je vous dis, je suis quelqu'un de très organisé. J'avais un emploi, j'avais des activités connexes, j'avais mes sociétés. Donc, je me retrouvais quand même. Vous savez, dans un parti politique, lorsqu'on s'engage, on doit donner. Donc, moi, j'ai beaucoup donné. C'était pas une question de finances.
Alors, vous ne vous retrouviez pas comment?
Non, mais il y a certaines choses qui se passait, qui ne raconterait pas mon assentiment politique. Alors, il fallait mettre les points sur les i. J'en avais parlé au chef à l'époque, M. Tshisekedi. Et puis, je l'ai suivi à Bruxelles. Nous en avons discuté. Et le moment venu, je lui avais demandé clairement qu'il devait me libérer. Et c'est pourquoi nous nous sommes quittés. Donc, je n'ai pas claqué la porte, j'ai gardé de bons contacts avec lui. C'est quelque part, je suis passé par Tshisekedi pour apprendre beaucoup de choses. Il m'a ouvert les portes de la vie politique. Il m'a recommandé un peu partout. Si je côtoyais les grands de ce monde, c'est à cause de lui. Mais aussi, il faut avouer que, parce que je le méritais bien, c'était pas un cadeau. Je faisais bien mon travail. Et cela m'a amené aussi à me préparer, parce que j'estime que dans la vie, surtout la vie d'une nation, les hommes passent, les institutions restent. Je me suis dit qu'un jour ou l'autre, c'était une préparation. Je devais me préparer pour être prêt à assumer des responsabilités. Donc le moment est arrivé. Moi, j'avais saisi cette opportunité.
Est-ce que c'était pas ça la première raison qui vous a poussé à partir ou à quitter l'UDPS? Parce que vous aviez aussi des ambitions.
Non.
Vous voyez plus grand, plus loin.
Non, madame. Laissez-moi vous dire que lorsqu'on est, on n'a pas d'ambition. Mais lorsqu'on grandit, si on a un père médecin, qui est médecin, on observe son père, on voit ce qu'il fait. Et on se dit quand même, bon, est-ce que je ne peux pas faire aussi comme mon père? Et si vous le faites plus que votre père, tant mieux. Donc, ce qui serait bête, c'est de ne pas observer son père, de ne pas voir ce qu'il fait, de ne pas comprendre ce qu'il fait, et puis se retrouver un jour dans la rue. Moi, c'est pas mon cas. C'est pourquoi je dois beaucoup de respect à M. Tshisekedi.
On va souffler un peu, Maître Michel Okoko, avant de parler de votre parti politique. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
Ouh, question difficile. Moi, j'aime pas l'hypocrisie et l'égoïsme.
Et c'est quoi votre plat préféré?
Moi, c'est banane plantain et puis les poissons.
Sportif,
poissons frais. Oui, je joue au foot. Et puis j'aime courir et faire du footing.
Un souvenir que vous allez plus marquer pendant votre enfance?
Pendant mon enfance, c'est quand j'ai vu, c'est un souvenir de courage et de bravoure. Pendant la rébellion, je me trouvais encore à Kisangani, on n'avait rien à manger. Mais mon père avait des concessions, il est sorti quand même parce qu'on avait fait, il a pris ce courage-là, il est allé chercher quelque chose. Et quand je l'ai vu revenir, parce que je ne croyais plus le revoir, et pour moi c'était... une marque de courage exceptionnelle. Je l'avais embrassé, j'avais moins de 10 ans, et c'est ce qui m'a marqué le plus.
Un fait marquant, votre parcours politique?
C'est le jour où j'avais rencontré Mandela à Genève. J'étais dans l'antichambre, j'étais porteur d'un message. Et puis tout d'un coup, il était en train de faire son lit. Moi j'étais dans l'antichambre, parce qu'il était dans une suite. Et puis la dame de chambre est entrée avec tout ce qu'il fallait pour échanger. Elle arrive et trouve que les lits étaient faits. Je lui dis, mais monsieur le président, c'est notre boulot. Je lui dis, j'ai fait ça pendant des années. Donc j'en ai gardé l'habitude. Et puis ses proches me diront que non, il est fait. Il a pris l'habitude, il s'est réveillé, il fait les lits. Donc j'ai trouvé par là une preuve d'humilité pour quelqu'un qui n'a pas abandonné ses habitudes, peu importe ce que cela pouvait représenter. Donc voilà ce qui m'a marqué en politique.
Comment vous passez vos moments de détente?
Est-ce que je n'ai pas de moments de détente?
Comment ça? Vous n'avez pas de moments de détente?
Mais je vous l'ai dit. Parce
vous n'allez pas nous dire que vous travaillez 24 heures sur 24 quand même.
Mes moments de détente, ça veut dire que je lis la Constitution. Je lis les textes. Les résolutions produites par les Nations Unies. Est-ce que si vraiment vous appelez ça moment de détente, je crois qu'il y a un pas. Donc, je vous dis que
là,
je travaille.
Là, vous êtes dans le travail, quoi.
Je suis dans le travail. Donc, ça fait des années. Et même lorsque j'étais en Suisse, avocat africain en Suisse, et c'était la mer à boire. Donc, il fallait beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler pour mériter les résultats que j'avais. Donc, les détentes pour moi, heureusement que j'ai une épouse magnifique qui me comprend, qui comprend qu'elle a un mari qui a sacrifié même la vie des foyers. Mais, j'aimerais bien avoir des petits moments de détente. Oui.
Mais est-ce que vous arrivez quand même d'écouter un peu de musique?
Ah, moi je travaille en musique. Hein. Donc je travaille
donc,
en musique.
Donc pendant que vous lisez votre constitution, il y a une musique qui vous accompagne.
À côté, une musique douce. Mais ce n'est pas tout le temps. Mais il y a quand même une musique qui m'accompagne. Et ça me
quel
dérange.
Genre de musique?
Oh ben, musique religieuse surtout. En Suisse, j'aimais beaucoup le... les jazz à l'époque. Mais...
voilà, alors on va souffler un peu avec une petite mélodie.
Je vous en prie.
Question de nous détendre un peu, quoi. J'espère que ça fera plaisir aussi à tous les auditeurs qui nous suivent.
Je ne vais pas contaminer tout le monde.
Qui nous suivent, et puis on se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
Thank you. ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kelly Nkouté sur Radio Okapi.
Grand Témoin, vous fait découvrir aujourd'hui Maître Michel Okongo Lomena. Il est président national du parti politique Unité des Valeurs. On va parler de ce parti politique qui a vu le jour en 2009, je crois. En Suisse.
Le 7 mars, oui, en Suisse, oui.
En 2009. Pourquoi Unité des Valeurs?
Unité des Valeurs, c'est simple. Nous sommes partis du fait que chaque individu, selon la création, chaque individu renferme des valeurs. C'est très important. Or que dans certaines sociétés, il y a la confusion qui règne. Il y a, c'est vrai, on n'est pas tous pareils. Mais vous avez certains qu'on appelle motopamba, c'est-à-dire quelqu'un de rien ou de moins que rien. Et nous estimons que ce qui a manqué chez nous, c'est la conjonction de ces valeurs. C'est pourquoi nous nous sommes dit, on crée un parti politique pour mettre en évidence la valeur qui renferme chaque Congolais. Faire en sorte qu'il y ait la conjonction de cette valeur afin de reconstruire notre pays. C'est le but de notre, l'appellation de mon parti, Unité des Valeurs. Donc les valeurs dans l'unité.
C'est pas différent des autres partis politiques, cette explication que vous donnez. Tout le monde parle des valeurs que renferment les Congolais, faire valoir ces valeurs. En quoi vous vous démarquez de ces autres partis politiques?
Non, je comprends qu'en tant que journaliste, vous êtes, votre métier vous place, je dirais, vous êtes comme une charnière. Hein? Vous avez à la fois le peuple et les leaders. Donc, certaines questions que vous posez, ce sont des questions que pose la population.
Justement.
Donc, ce que je voulais dire par là, tout dépend de la conviction, du sérieux qu'on met dans une action. Lorsque je parle de valeur, pour moi, ce ne sont pas des mots en l'air. Vous imaginez, nous sommes dans un pays où 35% des Congolais ne savent ni lire, ni écrire. Il ne suffit pas de ressortir les statistiques. Il faut faire quelque chose pour éliminer cela. Mais moi, avec mon parti, nous organisons des sites de formation civique où les cours se donnent gratuitement. On l'a fait avec nos propres moyens, bien qu'on a essayé de toquer un peu partout pour dire que la tâche est tellement immense, venez. Nous avons également compris que dans notre pays, se pose un problème sérieux de manque d'éducation civique. Et nous sommes passés par là, nous organisons des séminaires d'éducation civique. Il y a des valeurs qu'il faut ressortir. On ne peut pas reconstruire le pays de manière cavalière. Et c'est pourquoi je vous dis que s'il y a d'autres qui font allusion aux valeurs, bon, ils ont leur entendement, mais moi je donne un sens réel, tel que je vous dis là. Et voilà la différence. Donc c'est à vous de voir, est-ce que je donne un sens ou pas? Ou c'est un simple slogan, ce qui n'est pas le cas pour nous.
Le parti voit le jour en 2009, en Suisse, à Lausanne précisément. Vous rentrez au pays en 2011 pour implanter le parti à travers le pays.
Je vais juste préciser une chose. On ne crée pas un parti politique comme on peut créer un petit stand ou un ligablo, comme on dit. On le fait pour celui qui est sérieux. Il est fait de manière réfléchie. Lorsque j'ai quitté l'IDPS, je vous ai dit que j'avais un pied dans les Nations Unies. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Ma première réflexe, c'était de chercher à comprendre pourquoi les choses ne marchent pas. Et pour ça, j'ai commencé par voir, par consulter les décideurs politiques. L'approche que j'ai eue de cette tournée m'a permis de créer le parti. Donc j'ai créé le parti. Aussitôt, j'ai mis en place une structure. J'avais nommé quelqu'un qui était un coordinateur qui était chargé de liaison. C'est lui qui avait la charge d'implanter le parti ici, pendant que j'étais en Suisse. Mais tout ce que je faisais en Suisse était destiné pour le Congo. Et les moments venaient, je suis arrivé ici, c'était pour me positionner. Donc j'étais candidat président de la République en 2011, mais je me suis rétracté.
Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas prêt? Vous ne vous êtes pas senti prêt?
Non, pas pour cela, parce que j'avais compris que les jets étaient faits d'avance et la suite m'avait donné raison. Je ne voulais pas aller insérer mon nom, tout simplement parce qu'il faut mettre le nom. J'étais sur le terrain, j'ai fait le travail, j'ai vu que les jets étaient faits d'avance, et je me suis rétracté.
Vous étiez en Suisse, vous n'étiez pas sur le terrain. Puisque vous êtes rentré en 2011.
Mais je vous dis que le parti était présent, parce que c'est vrai, moi je suis maillon de la chaîne, je suis un Léma, mais il y avait les gens qui travaillaient ici parce que les partis étaient déjà implantés. Le moment venu, je suis arrivé parce qu'on travaillait. Nous sommes, comme je l'ai toujours dit, nous sommes un parti présidentiel. Parce que lorsque les partis se créent, chacun a ses ambitions. On a d'abord la vision et l'ambition des choses. La vision qu'on peut, lorsqu'on parle de programme politique, ça, c'est dit à la vision. Donc, notre parti politique est présidentiel. Alors, je suis arrivé en 2011, j'avais estimé que les jets étaient faits d'avance. Donc, ce n'était pas la peine d'inscrire les noms et puis ne pas aller plus loin.
Et au niveau du Parlement, vous n'avez pas pensé à présenter des candidats? Vous, c'était d'abord la magistrature suprême qui vous intéressait?
Je l'avoue qu'on avait eu un problème de dysfonctionnement. J'avais fait confiance à une équipe qui voyait les choses autrement. Pour eux, c'était « il faut corrompre ». Il faut remettre des enveloppes par-ci, par-là. J'ai dit non. Moi, je suis venu combattre ce système-là. C'est pourquoi j'avais arrêté partout. Pour lui, la campagne, c'est bien, mais il faut avoir à côté une enveloppe pour forcer les choses. Et partout, on m'a présenté des candidats qui avaient cette vision. J'ai dit non. Non, on vient changer. Il faut mériter. Mais moi, je ne pouvais pas permettre ça. Je ne voulais pas cautionner cela. Alors, j'avais arrêté le processus. J'ai changé toute l'équipe. À l'intérieur, tout comme à l'extérieur. Et puis, avec la nouvelle équipe, présentement, nous avons aligné 474 candidats sur toutes les sphères électorales.
Pour toutes les élections à venir.
Nous en avons 474.
Donc, et vous-même, vous allez vous présenter encore une fois en 2016.
Oui.
Vous pensez que cette fois-ci, ça va marcher, que vous êtes suffisamment préparé, que vous avez une équipe forte?
C'est le fruit d'une longue préparation. Et en plus, laissez-moi vous dire que je n'ai pas improvisé. Il y a un congrès de notre parti qui s'est tenu l'année passée. C'était au mois d'octobre, septembre-octobre. Et ça, là où j'ai été investi, après, je devais réfléchir. J'ai pris le temps de réfléchir. J'ai dit oui. Il y a un travail à faire, mais il y a un grand travail qui a été fait en amont. Parce que je ne me suis pas improvisé, j'ai préparé ces moments.
Le parti est-il implanté à travers toute la RDC?
Oui, nous avons, en tout cas, on a des connexions sur toute l'étendue du pays.
Mais on ne parle pas trop de votre parti politique, on n'en parle pas beaucoup.
Madame, sachez que personne n'a le monopole du peuple congolais. Personne, aucun parti n'a le monopole du peuple congolais. L'électorat,
même si personne n'a le monopole du peuple congolais, mais il y a quand même des partis politiques qui se font remarquer sur terrain, Maître Michel.
Je pense que je ne serais pas amené dans une position où je dois parler d'autres partis politiques. Il y a des partis comme ça, chacun a sa stratégie. Il y a d'autres qui apparaissent, qu'on le voie, parce qu'ils doivent apparaître. Mais nous, c'est le travail. Nous avons un bilan. C'est ce qui fait la différence. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans la tourmente. Pourquoi? Parce que les gens n'arrivent pas à se positionner. Nous, nous sommes restés constants parce que nous avons fixé les caps. Nous avons des objectifs bien définis. Je crois que nous aurons l'état d'en parler.
La visibilité est très importante, Maître Michel.
Je vous ai dit, dans un combat politique, parce que on nous appelle des acteurs politiques, mais des fois on dit nous sommes dans l'arène politique. Donc il y a un sens lorsqu'on dit l'arène politique, c'est le combat. Dans le combat, il faut avoir une stratégie. Nous en avons une. Je vous ai dit, je ne ferai pas comme l'AFDEL l'avait fait, mais je vous ai dit que en mai 96, personne ne connaissait Musée Personam. J'étais encore représentant, il y avait des tractations, Mobutu avait à l'époque invité Tshisekedi Dianis, ils avaient discuté sur les pouvoirs, comment gérer l'après, tout ça. Mais tout le monde savait qu'après Mobutu, il y aura quelqu'un, mais ce quelqu'un proviendrait de l'intérieur. Et c'est là où je vous ramène à survoler l'histoire, parce que vous verrez que même 96 personnes n'attendaient parler de musée. Mais une année plus tard, c'était lui le chef d'État. Donc, je ne dis pas que tu ferais du copier-coller, mais je vous dis que moi, j'ai une stratégie qui fera en sorte que les Congos de demain, moi, j'aurai un rôle important à jouer. Et je travaille pour ça, et je vous l'affirme, vous allez garder les archives, un jour, peut-être vous m'inviterez, nous allons consulter ces archives-là.
Alors, l'Unité des Valeurs est un parti politique de l'opposition. Dans l'opposition, aujourd'hui, on a plusieurs plateformes. On a la dynamique de l'opposition, on a le rassemblement. Votre parti se positionne où?
Je suis de l'opposition, je ne m'en cache pas. Mais je ne sais pas si, présentement, il faut parler de l'opposition ou de la majorité. Nous sommes engagés dans une course pour sauver le Congo. Donc, on est avant tout congolais. C'est ce qui est important. Moi, je fais une opposition républicaine. Je suis en contact avec tout le monde. Et je me dis, nous sommes des adversaires politiques, on n'est pas des ennemis. Je parle avec les gens de la majorité. Je parle avec les amis de l'opposition. Mais ma famille politique, c'est l'opposition. Lorsque l'opposition se réunit, je me retrouve. Mais encore une fois, je vais préciser. C'est comme dans une équipe nationale. Nous avons les léopards chez nous. Lorsque nous allons dans une compétition internationale, on a besoin de tout le monde. Depuis tard, de l'essence, des manas, des mazemes et tout cela. Mais en ce moment-là, les joueurs que vous prenez, lorsqu'ils arrivent dans l'équipe nationale, ce sont des coéquipiers. Alors qu'hier, c'était des adversaires. Mais nous avons tous un parti politique. Donc, mon programme politique n'est pas celui d'un autre parti politique de l'opposition. Mais lorsque les intérêts nationaux sont en jeu, nous nous retrouvons en tant qu'opposition. Mais après, s'il faut aller aux élections, mais chacun y va à sa manière. C'est pourquoi j'ai dit, si je veux aujourd'hui intégrer une plateforme, je le ferai. Mais aujourd'hui, je me dis, je me suis préparé suffisamment d'abord pour voler de mes propres ailes. Mais cela n'exclut pas que nous puissions avoir des rapprochements. Le peuple congolais nous observe. Il attend beaucoup de nous. C'est ce que j'irais dire au facilitateur. Je lui dirais ceci, ce que j'ai demandé à le rencontrer. Je lui dirais que ce qui se passe chez nous, nous devons faire très attention. Moi, j'aime parler avec des illustrations. Lorsque vous avez quelque chose de très dramatique qui se passe et qu'on appelle les pompiers, ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils sécurisent d'abord les périmètres. Le problème chez nous est politique. Nous devons sécuriser les périmètres parce que ce sont les politiciens qui doivent trouver la solution. Mais vous avez tout le monde qui vient, les mamans d'Ango, les je ne sais pas quoi. Parce que tout le monde nous dit, comme il y a dialogue, tout le monde veut participer. Aux concertations nationales, c'était pareil. Mais les problèmes politiques, c'est à nous d'abord de trouver les solutions et impliquer tout le monde par la suite. C'est pourquoi je vous dis cette histoire-là, des plateformes. Bon, moi je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais chaque parti politique, chaque leader est libre d'appartenir à une plateforme.
Moi, alors, quelle est votre position, Maître Michel, sur le dialogue? Qu'est-ce que pense votre parti politique? Il faut aller au dialogue ou pas?
Je vais vous donner ma lecture de fait et puis mon point de vue. D'abord, je précise qu'en tant que Bantou, nous sommes Bantou, le dialogue fait partie de notre culture. Alors, on ne peut pas éviter le dialogue. Ce que j'avais dit au départ, que le dialogue était inopportun, tel que convoqué sous format des chefs de l'État, il était inopportun. Parce que on ne nous avait pas montré ou démontré suffisamment pourquoi nous avons échoué, pourquoi nous avons échoué à organiser les élections. Pour répondre à votre question, je crois que les positions évoluent maintenant, parce que nous allons avoir les dialogues. Quand j'ai dit non, sans que le Congo va avoir les dialogues sous le format qui respecte ce que j'ai dit, l'esprit de la résolution 2277. C'est déjà très bien parce que la communauté internationale s'y implique. Il y a plusieurs volets qui évoluent. Alors, ça nous pousse à revoir notre position. Donc, je crois que de ce point de vue, nous sommes partants.
Sans condition, comme les font les autres partis politiques de l'opposition qui demandent la libération des prisonniers politiques. Certains récusent même le facilitateur. Est-ce que vous êtes du même avis qu'eux?
Non, nous devons faire très attention de vider le dialogue de sa substance. Il faut laisser tous ces points-là au sein du dialogue. Nous devons aller débattre de tout cela au sein du dialogue. C'est très important. Vous savez, les facilitateurs. Moi, je suis en train de plaindre quelque chose. On l'a fait venir. Je me demande, est-ce qu'on lui avait donné les instruments du travail? Les instruments du travail, c'est quoi? Parce que c'est un facilitateur, ne l'oublions pas. Nous ne nous faisons pas confiance mutuellement. C'est pourquoi nous avons besoin d'un facilitateur extérieur. Donc, il est arrivé. L'Union africaine nous a fait nous a donné cette opportunité. Monsieur Kodjouela, c'est un facilitateur. Il est là pour rapprocher les deux parties. Est-ce qu'on lui a donné suffisamment des éléments pour qu'il commence son travail? Moi, je crois que ce n'est pas le cas. Ça, c'est très dangereux. Alors, comme condition, on n'a pas de conditions, mais nous avons des recommandations sous forme de conseils.
Et quelles sont ces recommandations?
Les recommandations, nous disons, nous tenons beaucoup au respect de la parole donnée, au respect du droit et au respect de la Constitution. Ça ne sert à rien de prononcer de belles paroles et demain que tout cela ne soit suivi d'aucun effet. Parce que j'ai été en concertation nationale. Il y a certains de nos collègues qui avaient boudé ces travaux. Mais moi, je suis allé.
Mais qu'est-ce que ça a donné ces concertations,
maître? Oui, on a fait un travail.
Rien du tout.
On a fait un travail formidable.
Les recommandations sont restées dans les tiroirs, sont restées lettres mortes.
C'est l'applicabilité qui pose problème. Donc nous, en tant qu'architectes, nous avons fait un travail formidable. Il faut qu'il y ait respect de la parole donnée, respect du droit, respect de la Constitution. Et s'il me reste encore quelques minutes, je vous dirai ce que nous pensons.
On n'a plus beaucoup de temps, monsieur Maître Michel.
Laissez-moi faire la transition rapidement.
Allez-y.
Je vous dis ceci, ce qui doit nous préoccuper, nous avons parlé de l'histoire, mais l'histoire est restée figée. Mais l'avenir, c'est ce qui intéresse les Congolais. L'avenir, c'est quoi? Il faut d'abord assainir les milieux politiques et mettre tout le monde en confiance. Et cela passe par le pardon, un pardon sincère. Et cela passe par la réhabilitation de notre passé, les recyclages et la réinsertion. Donc, nous sommes Congolais, il faut présentement que nous puissions nous unir. Les problèmes et là, les faits sont là. Les Congo est à terre, maintenant il faut les relever. Donc, laissons d'abord tout ça de côté, mettons-nous ensemble. C'est pourquoi nous devons aller discuter.
Alors, maître Michel, au Congo, on va séparer par là. Un dernier mot à tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment partout en RDC et même à l'étranger.
Oui, d'abord, un grand coucou aux Congolais de l'extérieur. Parce que je sais que le Congo attend beaucoup d'aide. Et puis, je salue aussi les Congolais. Je suis solidaire à tous ceux qui souffrent. Mais je demande à la classe politique d'être responsable. Pensons pour les Congolais. Faisons en sorte que l'intérêt des Congolais puisse être pris en compte dans tout ce que nous faisons.
C'était un plaisir, Maître Michel, de vous recevoir dans cette émission. Je rappelle à tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment que je recevais Maître Michel au Congo Lomena, président national du parti politique Unité de Valeur. Voilà, merci à Paul Wadianyama qui était à la prise de son au micro Kelly Mkoute. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.